L'avantage du hip-hop, c'est do it yourself, fais ce que tu veux, sois à l'arrache et il n'y a pas de code. Et ça, c'est génial, quoi. Tu es avec ta machine, tu fais ce que tu veux.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. La caution, Nick Fury. Comment on exporte sa musique de la banlieue à Hollywood? Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch ont rencontré Nick Fury. Ils révèlent, piste par piste, les secrets du morceau Poltergeist, un standard de leur répertoire.
Yeah. À défaut d'être fils à papa, nous sommes des fils à la maman, avec la rage d'un noir d'Alabama, celle d'un Touareg du Sahara. Payant l'impôt de Panama, payant plein pot pour la para.
Sans spectateur, sans dictateur, dans mon dictaphone, retour au bercail,
ayant l'intention d'atterrir,
la ferme intention d'asservir.
Ce système dont nous sommes satellites, ce vice dont nous sommes tributaires, tirant l'ignorance patibulaire,
l'ex-innocente machiavélique.
Le tir au flanc de l'Amérique, un chiroplante pour prépubère, un placebo cadavérique,
un apéro dans tes bulles,
un pagéro dans ton rétro et sur ta stèle des pétunias,
un aller-retour dans l'air humain.
Nos phrases bousculent ton cérumen.
Un Magellan sans caravelle, un ingénieur dans ma navette,
un quinquagénaire du bas de ma fenêtre a rendu sa thèse.
La Poltergeist, c'était un film des années 90, à peu près, un film fantastique, d'horreur, qui à l'époque nous avait marqué. On était très sur cette vibe, on aime bien donner une couleur au morceau, et il n'y avait pas de titre particulier au morceau. Celui-là collait bien à l'ambiance, c'est limite les notes de ce morceau-là nous ont inspiré ce titre-là, et du coup on l'appelait Poltergeist. Ouais. En fait, la genèse du morceau, elle est un peu comme la genèse de 90% de mes morceaux, et ça s'appelle uniquement le hasard. J'ai tripatouillé tout et n'importe quoi jusqu'à ce que j'ai trouvé un truc. Et en l'occurrence, sur Poltergeist, il y a l'espèce d'arpège. Après, je pense que je l'ai trouvé assez rapidement. Et du coup, j'ai commencé à broder là-dessus en jouant sur plusieurs tentatives de mélodie. Et celle-là est arrivée quasi instantanément. Elle a l'avantage, dans ces accords-là, de super bien justement s'accorder avec énormément d'autres synthés qui sont venus justement gonfler l'arpège assez sec, synthétique au début. C'est un JV1080, en fait, avec mon clavier maître.
Here we are with our Roland JV1080 sound module. We're going to go through the process of choosing sounds.
Je ne suis pas du tout fluide au clavier, on va dire, au piano, au clavier ou quoi que ce soit. Du coup, moi, en fait, j'arrive à l'imaginer, ce truc-là. Je le fais grosso modo. Et après, à la main, enfin à la souris, informatiquement, je recale tout ça exactement comme je le veux et tout ça. Donc, il y a un côté imaginer le truc. Malheureusement et heureusement pour la créativité globale, c'est tout, presque tous les synthés à la base, c'est des ondes qui sont réglées de manière hyper basique. Et le JV1080 en l'occurrence sonne assez synthétique et compagnie. Si tu lui donnes pas un corps un peu plus fat avec le premier arpège a dû être joué avec une espèce de xylo un peu cheap. Mais par-dessus, tu le mélanges avec tel autre son de synthé pour avoir une sonorité qui sonne pas bon tant pis, quoi. Sur le 1080, je crois qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de moduler le truc. Mais par contre, en les superposant, on peut avoir un seul son. Et une fois que tu connais un peu ça, tu peux te débrouiller pour avoir quelque chose d'assez costaud pour pouvoir être utilisé en lead sur un morceau. Moi, j'ai choisi cette machine-là, notamment le 1080 à l'époque. Pour deux raisons. La première, c'était une contrainte budgétaire, c'est-à-dire que quand on m'en avait quasiment tendu un à une misère, donc j'avais pas de synthé. Et là, du coup, c'était la première fois de ma vie, j'en avais un avec, si je veux un piano, j'ai un truc. Donc je me suis dit, c'est le coup de le prendre. Et aussi, par rapport à Teddy Riley et tout le... Enfin, j'ai très très été New Jack Swing, et il y a énormément de 1080 sur New Jack Swing.
Yeah.
En tout cas, pour moi qui faisais des trucs plus hardcore que le New Jazz Swing, je me disais à un moment donné, pour mettre un peu de miel par-dessus, c'est le truc parfait. Et il se trouve que faire un son entièrement au 1080, j'arrivais pas. Mais par contre, ça a amené une petite touche mélodieuse et qui était hyper intéressante. Et c'est pour ça, du coup, que le 1080, bon, j'ai une tendresse particulière pour cette machine. Nous, on commence à Noisy-le-Sec dans le 93. J'avais archi pas de thunes. Je faisais des sons chez les gens, donc chez des potes qui avaient déjà un sampleur et compagnie. Et j'étais en mode crevard à lui demander, ouais, tu peux me laisser 1h30, s'il te plaît? Parce que j'avais pas assez de thunes. Ça coûtait à peu près 3000 francs, je crois, un sampleur de base, un 950 ou quelque chose. Et puis à cette époque-là, j'avais pas 3000 francs à mettre dans un sampleur. Mais j'étais passionné par le truc. Du coup, quand j'ai commencé à récupérer un peu de sous, et notamment un ami qui m'avait offert un Atari, c'est ce qui a créé ma manière de faire du son. C'est-à-dire le fait de rien avoir m'a forcé à créer le truc qui m'a donné une touche à moi. J'étais vraiment en mode qu'est-ce que je peux faire avec mes 18 secondes de sample en mono, je peux pas sampler des boucles. C'est pour ça que j'avais une approche assez différente du hip-hop de base, parce que ils avaient la place de sampler des boucles, où là, quasiment, tu l'as samplé, tu tapes dessus, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le beat est parfait, ça y est, j'ai plus rien à faire. Qui a composé 90% des morceaux fat du rap français de cette époque-là, où les mecs avaient déjà ce matériel, MPC ou EMU de l'époque. Et du coup, moi, j'étais obligé vraiment de feinter, de feinter, de feinter. C'est vrai que la petite recherche et le petit kiff de trouver, c'est pas mal. Et je continue à trouver, et je continue à chercher, plus je continue à trouver. Ce truc-là, il a été démocratisé grâce au hip-hop et à Kraftwerk. Mon style, le style Nick Fury, quelque part, c'est un mélange de toutes mes influences, absolument toutes mes influences. Mes influences directes. Les influences directes, j'ai grandi dans un quartier du 93, c'est la funk, la soul, la musique arabe, mais énormément d'influences indirectes. De la new wave à la cold wave qu'on récusait à l'époque, genre c'est de la merde, c'est pas pour moi, etc. Mais qui en fait m'ont traumatisé, de Duran Duran à New Order, même la disco italienne, Mr. Flaggio et tous ces mecs-là. Mais le mélange de tout ça a réellement créé mon oreille. Et les 80% de ces mecs-là qui utilisaient des synthés ont été influencés par Kraftwerk. Et du coup, moi, je suis revenu vers ça. Et puis, le fameux Africa Bambaataa, évidemment, qui est carrément un sample de Kraftwerk. Moi, je suis revenu vers Kraftwerk après coup. J'ai fait le rétropédalage. Un peu comme aujourd'hui, pas mal de jeunes font le rétropédalage, parce que si t'es dans le hip-hop d'aujourd'hui seulement, l'émotion vraiment subjective et transportante de la musique, elle y est plus. Si t'aimes le rap, tu es obligé de faire un rétropédalage. À la base, quand t'écoutes le Planet Rock d'Africa Bambaataa, tu vois que quand ils ont fait le beat, ils ont trouvé, en écoutant justement le morceau Trans Europe Express de Kraftwerk, cette espèce d'émotion, je dirais, d'agressivité mélodieuse, qu'eux ont juste rajouté un beat par-dessus, en tout cas pour Africa Bambaataa. Le hip-hop, à la base, même limite, c'était ça, quoi. Beatmakers breaking down beats. Alors là, par exemple, j'ai superposé donc aux espèces de nappes assez planantes qui sont issues de toute cette influence un peu électronique, kraftwerkienne de loin, on va dire, par ces espèces de keyboards qui sont sur le temps et qui rythment la chose en donnant un côté un peu plus agressif, un peu scratchy. Eux, par contre, viennent pas du JV1080, ils viennent d'un autre de mes synthés qui s'appelle le Waldorf Micro-Q. Qui avait l'avantage d'être là beaucoup plus modulable. L'idée, pour pas être redondant, surtout avec le même type d'arpège, vous connaissez peut-être un musicien cinglé qui s'appelle Steve Reich, qui a fait de la musique répétitive. C'est le père à Kim Chapiron, donc Kiki Chapiron, qui m'avait dit, tiens, c'est sûr que tu vas kiffer ça. Le mec faisait tourner quelque chose à l'extrême et sur le même principe que le gnawa et la trance. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans ton corps avec la répétition. Le hip-hop a ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être le mouvement culturel qui a fracassé le plus l'histoire de la musique. Il a ce côté d'être hyper facile d'accès parce que c'est la même chose qui tourne. Et si t'as pas compris sur les 8 premières mesures, t'auras peut-être compris un peu sur les 8 suivantes, etc. Et au bout du morceau, tu sais que là, il y a une guitare, là, il y a un truc. Ah tiens, même si tu connais pas, t'es pas familier au langage de la musique, tu apprends énormément grâce au hip-hop en réalité. Et c'est vrai que pour des fois squeezer le côté répétitif, si j'ai un arpège fait avec un instrument et ça y est, j'ai trouvé mon instrument, il claque, peut-être sur le couplet ou sur le refrain, en avoir un autre qui reproduit le même arpège, mais qui donne une autre sensation. Et c'est pour ça qu'on passe du premier arpège, qui est celui de l'intro, du coup, à un truc plus, là, pour le coup, plus glockenspiel, limite assez cheap même. Enfin, c'est un peu ça, la composition musicale, c'est un puzzle, c'est plein de couches. Et la première couche, très souvent, c'est bien d'avoir en fond des nappes, même si des fois elles sont quasi inaudibles, parce qu'elles comblent les trous qu'il y aurait éventuellement entre les éléments. C'est vraiment un colmateur, quoi. C'est comme tu changes les plinthes après avoir fait un parquet. Le petit filet d'espèce de colle, c'est exactement ça, les nappes. La plinthe, ce serait peut-être l'élément de base. Et le mur, c'est le beat. Donc un peu plus loin dans ce morceau, il y a le beat qui rentre. Et là, on est vraiment définitivement dans quelque chose qui passe de mélancolique, limite lancinant, à quelque chose de beaucoup plus rythmé. Bah, la recette, en gros, hip-hop, quoi. C'est pieds, caisses claires de ma propre banque de pieds, caisses claires, Charlet et compagnie, que je samplais d'absolument partout. C'était vraiment pour les besoins du morceau sur Poltergeist que le beat est assez droit, assez speed, avec des temps très marqués. Limite, je crois même que c'est un pied-caisse. L'idée, c'était d'arriver à ce moment-là avec un beat très efficace qui supporterait du coup la suite du couplet qui commence. Le beat n'a rien d'extraordinaire. Hein. On aurait pu calculer différents autres beats qu'on a fait, mais pour parler justement d'un morceau comme Terre à la menthe, qui est peut-être dans la musique le truc que j'ai inventé, parce que personne ne l'a jamais fait avant. C'est-à-dire que même les Chemical Brothers, avec le sample de Najat Ertabou, donc une chanteuse de shabi marocain. Donc c'était quoi le morceau? C'est... Galvanize. Ce morceau des Chemical Brothers est sorti après, puisque moi ça avait été fait pour le court-métrage de Courtrajmé Taroubi l'Abstrait. Et à cette époque-là, en fait, c'était impossible pour moi de garder la boucle parce que j'avais pas assez de temps de sample. J'ai samplé énormément de petits bouts de plein de trucs. Et notamment de plein de trucs de Rebeu, de bandoneon, d'un moment donné une petite guitare, d'un moment donné un truc. En les mélangeant, tu peux jouer sur ton clavier quelque chose qui va te donner une nouvelle mélodie. Sauf que t'as des creux entre chaque et que pour les harmoniser, soit tu mets de la réverb, mais ça devient hyper n'importe quoi au bout d'un moment, soit j'ai trouvé ce truc-là, soit tu les accélères. Et en les accélérant, moi, en tout cas sur ce moment-là, ça donnait le... Et tu voyais plus les creux entre les deux. Du coup, j'ai récupéré mon truc accéléré, les décéléré et rajouté un beat rebeu en dessous pour faire croire que c'est une vraie boucle. Et le truc sonnait carrément hyper bien. Mais c'est une mission de chez Mission, quoi. C'est tellement dur à refaire que même sur le film Ocean 12, le mec qui a fait la musique du reste du film, David Holmes, donc qui est un poids lourd de la musique de film, à passer. Pendant 3 mois, moi, j'étais en suspens. Est-ce que Soderbergh va garder mon titre ou pas? Parce qu'il faisait tout pour remplacer le titre. Dixit Vincent Cassel, hein, qui me dit, ouais, pendant 3 mois, le mec, ouais, parce que c'était la scène la plus remarquable du film. Le mec n'a pas voulu le mettre sur le soundtrack, prétextant que c'était du score, un peu comme si c'était juste uniquement une nappe. Mais le mec voulait pas se faire d'autoconcurrence. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il avait fait son reste des musiques, voulait briller seul. Moi, je m'en tapais, tu vois. Moi, le truc, c'est qu'il soit sur le film. Après, il passe sur la BO, mais ça nous a fait un buzz de malade mental. Je crois qu'en 2 mois, on a reçu 3000 mails. Et c'est eux qui ont rebaptisé ce morceau The Laser Dance Song. Nous, on n'avait jamais pensé l'appeler comme ça. C'est eux, Where Can I Find The Laser Dance Song, Please? Where Can I Find? On en a reçu 1 milliard. Et dans Rayman Legends, le jeu, à un moment donné, t'as pas mal de scènes qui rappellent des films. T'en as une qui rappelle Rocky, et t'as un truc qui s'approche de Survivor, là, de Eye of the Tiger. Et t'as un truc qui se rapproche de T'es à la menthe. Et donc, pour ce morceau-là, T'es à la menthe en particulier, que ce soit dans la méthode, dans l'énergie et dans le caractère inédit, je pense que j'ai inventé un truc. Beatmakers breaking down beats. Le travail du beat, c'est vraiment le nerf de la guerre dans un morceau. Dans le Fuck With Me, You Know I Got It de Jay-Z, par exemple, le rapport entre sub, beat et compagnie est maîtrisé à la perfection, ce qui est archi pas évident parce que le sub devient très vite quasiment le spectre du morceau, où là, pour le coup, t'as même plus besoin de vitesse. Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais la vitesse de la trappe est très lente et le sub a remplacé la vitesse. Avant, tu voulais ambiancer les gens, il fallait que ton morceau soit rapide. Aujourd'hui, t'as plus besoin de ça. Parce que le fait d'être hyper marqué avec quelque chose qui va prendre jusqu'au trip, vraiment, littéralement, est un truc qui fonctionne hyper bien sur les corps, tu vois, et qui transmet vachement de trucs. Et donc, sur le morceau Poltergeist, l'idée était de faire un truc très évolutif. Ça commence avec les nappes toutes seules, puis le piano qui rentre, et du coup, les voix qui s'adaptent à ça, puis le beat rentre, donc l'ensemble s'adapte. Enfin, c'est vraiment un arbitrage de priorité à certains moments. Le refrain, il y a ces synthés très, très marqués sur le temps qui reviennent. Dis-moi quel chat tu fouettes, fouette. Dis-moi quel rat te guette, dis-moi quel animal tu égorges, dis-moi quelle barricade te décore. Je pense que c'est un sample d'une petite boucle, là pour le coup, de percu. Et en fait, l'avantage en ralentissant ça, c'est que ça donne aussi un petit truc, alors qui est susceptible d'être perçu par peu de gens. Mais t'as un petit truc un peu grinçant qui amène un petit truc dans ce que moi j'appellerais l'âme du morceau. Et surtout, moi, dans ma touche, a été phénoménal. Parce que du coup, à l'époque, je passais par une table BST complètement cheapos. Et j'avais énormément de souffle. Et tout ce souffle-là, en fait, qui était des pourritures électriques qui restaient, etc., donnait sur certains éléments un truc mais complètement frais, quoi. L'avantage du hip-hop, c'est do it yourself, fais ce que tu veux, sois à l'arrache, et il n'y a pas de code. Et ça, c'est génial, quoi. Tu es avec ta machine, tu fais ce que tu veux.
Yeah. Yeah.
À défaut d'être fils à papa, nous sommes des fils à la maman. Avec la rage d'un noir d'Alabama, celle d'un Touareg du Sahara. Payant l'impôt de Panama, payant plein pot pour la para.
Sans spectateur, sans dictateur.
Dans mon dictaphone,
retour au bercail.
Ayant l'intention d'atterrir,
la ferme intention d'asservir.
Ce système dont nous sommes satellites, ce vice dont nous sommes tributaires, qui rend l'ignorance patibulaire.
L'ex-innocente Machiavel.
le tir au flanc de l'Américain qui replante pour prépubère.
En fait, là, par exemple, ce morceau-là, il est pensé en sachant qu'il y aura des voix. C'est l'avantage aussi de bosser vraiment un morceau de A à Z, en faire une vraie œuvre et pas j'ai posé sur un son. On s'est adapté à la mélodie, par exemple, la voix. C'est chantonné. Là, c'est en l'occurrence moi qui rappe ce couplet. La mélodie, t'as vraiment quelque chose qui se passe. Et du coup, on peut s'apercevoir que les voix sont quand même assez chargées.
Pour imaginer que les doigts de ma sénice, il cache ses balles dans les barésies de sa femme dans sa cave, il est assez vil.
Il y a énormément de pistes, il y a tout un truc qui se passe. Et c'est en ça que la composition de Poltergeist, par exemple, a été beaucoup plus épurée. Et si on met les deux en même temps, par exemple...
À défaut d'être fils à papa, nous sommes des fils à la maman, avec la rage d'un noir d'Alabama.
Et c'est teinté de mélodies qui ressemblent à ce qui pourrait être de l'arpège, quoi. Et du coup, en mettant la voix sur l'arpège, finalement, on a un pavé qui commence. Et quand le beat rentre, on a d'autant plus un autre pavé. Il fallait donc diminuer quelque chose, et d'où le changement sur le couplet d'instrumentation pour le même arpège.
Petit roflant de l'Américain qui replante pour prépubère un placebo cadavérique.
Un apéro dans tes bulles d'air.
Un pagéro dans ton rétro et sur ta stèle des pétunias.
Un aller-retour dans l'air humain.
Nos phrases bousculent ton cérumen.
Un Magellan sans caravelle. Un ingénieur dans ma navette.
Un quinquagénaire du bas de ma fenêtre a rendu sa thèse en racéisme. Il est passéiste, il est assez vil pour imaginer que les doigts de ma sénice.
Il cache ses balles dans les barésies de sa femme dans sa cave, il est assez vide.
Dans le travail de beatmaker, il y a deux. Tu peux avoir deux plus. Tu peux être beatmaker et DJ. Et par exemple, un mec comme premier, l'influence de son côté DJing sur ses sons est monstrueux. Je cite tout le temps cette anecdote, mais un morceau de Aussie qui s'appelle My World, avec un sample, je crois que c'est de Love Unlimited Orchestra. J'avais le sample et avec un pote à moi, Insomnia, qui faisait du son, on a essayé de le refaire avec le sample et en fin de compte, le jeu de pitch était fait vraiment à la platine. C'est une galère absolue à refaire le même truc. Donc ça, c'est pour le côté... Je suis beatmaker et DJ, donc ça t'a un plus parce que t'as la platine. I got jerk, but now I'm getting it. Hazy like asthma, bizarre disaster. Stress almost held me down from being the master, the pastor, preacher, poet, a teacher. It's been so long. Like Monifa, believe that I'm needed in rapping. I breathe this. Some pick up a microphone and can't even achieve this. Oscar award winning, your shit, I'm bored with it. Stop copycatting, son. Why? Cause your dog did it. Get your own lingo, make up your own jingle. 10 years later, you be biting my single. Primo, take it downtown swinging. Intervening on the board, Sesame Hill steaming. Et beatmaker et rappeur, en tout cas pour tout ce qui est des morceaux de rap, ça te permet de progresser dans les deux. Ça te permet de progresser dans ton rap et inversement, de le prévoir dans le son, c'est-à-dire de te dire un mec va poser, si à ce moment-là je lui fais faire ça, c'est sûr qu'il va adapter son flow à ça.
Dans les bars, des litres d'alcool qui me nargue et me vide le crâne, comme une remarque de pute qui parle, prendre une claque et le cul d'une tasse, grand dégueulasse qui se vide la panse, ironique j'ai dans la poche un tas d'hypocrites qui causent de choses qui collent comme un coup de cutter dans la...
On n'est pas les mecs les plus manchots au mic, parce que du coup on a toutes ces techniques-là qu'on a pu avoir même dans le son, que plus tard, longtemps plus tard, les gens appelaient multisyllabiques, etc., que nous, on faisait par analogie à ce qu'on kiffait vraiment le rap, et vraiment le rap en termes de performance. Et ça apporte dans les deux sens, autant au rap qu'au son. Je pense que je suis nerd en studio, et sur scène, je suis là pour m'exprimer, tu vois. Et c'est parce que j'étais rappeur avant d'être beatmaker. Et j'aime autant les deux. Et des fois, des gens trouvent que Nick Fury est meilleur rappeur que beatmaker, notamment ceux du rap assez classique. Et beaucoup de gens vont pas forcément aimer le rap ou mon rap particulièrement, mais par contre, surkiffer mes sons dans d'autres types de milieux. Moi, je suis très bien avec ça, quoi. Je suis vraiment là pour... dans l'absolu, j'aime autant les deux, je prends autant de plaisir à faire les deux, et je pense que ça va continuer. Moi, la musique, c'est mon fantôme. moi, des fois, je m'interroge. Je me dis pourquoi j'arrive à faire ça ou pourquoi j'ai fait ça. Parce que réellement, le hasard et cette espèce de ce que j'appelle un fantôme, hein, mais c'est, je suis pas du tout dans la possession, dans les conneries comme ça. Mais vraiment, il y a un truc qui, à un moment donné, fait un déclic et tu trouves des notes, tu trouves un enchaînement, tu trouves un truc qui fonctionne et tu dis pourquoi. À la base, je l'ai ni chantonné ni rien, mais c'est arrivé. Et je trouve ce truc-là extraordinaire. Donc la musique, est, pour moi, la musique, c'est un peu mon fantôme. Dans la vie, j'aime bien le son des néons et cette espèce de bruit blanc qui peut se passer autour d'un néon, d'un truc comme ça, je trouve ça intéressant. Et c'est le bruit du silence en réalité.
Arte radio.com.
Vrai silence complet, très rare.